Bonjour à tous, tellement heureux de vous savoir derrière vos écrans pour ce deuxième dimanche de l'Avent. Nous montons tranquillement vers Noël. Et oui, Noël malgré tout, malgré ce qui se passe autour de nous, les circonstances particulières sanitaires, nous sommes heureux de pouvoir vous offrir ce culte ce matin. Avec l'équipe, vous voyez, une petite décoration a été mise en place pour manifester cette montée vers Noël. Nous nous réjouissons particulièrement cette année de la venue de notre Sauveur que nous fêtons ensemble. Nous allons le faire ce matin avec un temps de louange, tout à l'heure un message, et puis les choses qu'on aura à cœur de vous communiquer. Peut-être que simplement, là où vous êtes, dans votre salon, peut-être dans votre chambre à coucher, peu importe, derrière votre téléphone, vous inclinez avec nous pour demander au Seigneur de nous parler tout particulièrement dans ce dimanche de l'Avent. Nous te remercions, Seigneur, pour cette possibilité d'être connectés les uns les autres, d'être ensemble pour vivre ce culte. Nous prions pour que ce temps nous rapproche de toi et nous aide à comprendre aussi le sens véritable de Noël. Merci de nous aider à voir ce regard nouveau, ce regard neuf sur Noël et sur sa signification pour chacun d'entre nous. Merci de bénir les petits et les grands aujourd'hui. Amen.
Voilà, bonjour à tous. On va commencer ce temps de louange par un verset de l'Apocalypse, chapitre 3, verset 20, où Jésus nous dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Notre Dieu est un gentleman, il ne défonce pas les portes, mais il frappe à la porte de nos cœurs. Et ce matin, on aimerait prendre ce chant qui dit « Laissons entrer le roi de gloire ». Il y a toutes sortes de choses qui peuvent nous voler notre paix, notre joie. Mais ce matin, on aimerait vous inviter à fixer les regards sur Jésus, à lui permettre d'entrer dans votre vie, d'entrer dans ce moment, que ça puisse être un temps pour le célébrer. Alors ce matin, on veut chanter « Laissons entrer le roi de gloire ».
Venons célébrer Dieu, nous voulons l'adorer. Devant lui nous nous courbons pour élever son nom.
Nous venons.
Nous venons célébrer Dieu, nous voulons l'adorer. Devant lui nous nous courbons pour élever son nom. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et seigneur. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et seigneur. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et seigneur. Accueillons notre Dieu, majestueux. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et seigneur. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et seigneur.
Tu es glorieux, mais nous sommes heureux de t'appartenir, Père éternel. Alléluia.
Assis dans le ciel, ton trône éternel, tu règnes à jamais. Vêtu de splendeur, entouré d'honneur et de majesté, les anges chantent à toi la gloire. Cieux et les mers, la vie, la lumière nous parlent de toi. Tu les as créés, les as appelés au son de ta voix. La terre chante majestueux, souverain. Tu es saint, la création loue ton nom, tout l'univers déclare à toi la gloire.
Serviteur.
Ô roi serviteur, tu vins sur la terre révéler l'amour. Divin créateur, merveilleux sauveur, tu vis pour toujours. Tes enfants chantent majestueux, souverain. Dieu tout-puissant, tu es saint, la création loue ton nom, tout l'univers déclare majestueux. Tu es saint, la création loue ton nom, tout l'univers déclare,
tout l'univers,
tout l'univers déclare Dieu tout-puissant, tu es saint. La création loue ton nom, tout l'univers déclare à toi la gloire. Tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, Agneau de Dieu. Je viens tel que je suis bien vacillant en poids. Tu me pardonnes, tu me pardonnes. je m'abandonne, je crois en toi. Tu me
Seigneur, ce matin, on est dans la joie parce que nous sommes à toi. Nos noms sont inscrits dans ton livre. Oui, merci Père, parce que dans ta grâce et dans ton amour, tu t'es fait homme. Tu es venu prendre sur nous, sur toi Seigneur, notre condamnation. Merci parce qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en toi. Nous pouvons nous réjouir ce matin Père, parce que tu as payé le prix fort à la croix pour que nous ayons la vie. Et ce matin, nous sommes encore éblouis par ta gloire, éblouis par ta splendeur. Tu es le roi de gloire qui a quitté ton ciel pour te faire homme, par amour pour chacun d'entre nous. Nous sommes reconnaissants ce matin, Jésus, pour le sacrifice de la croix, reconnaissants pour ton sang versé qui nous donne la vie. Merci parce que notre péché, tu l'as pris sur toi, Père, pour que nous puissions devenir tes enfants. Et nous sommes dans la joie ce matin d'être déclarés enfants de Dieu. Parce que tu nous as choisis, Père, parce que tu as donné ta vie, parce que tu as offert ce que tu avais de plus précieux, Seigneur. Nous voulons te célébrer ce matin et nous voulons te dire par ce chant combien nous sommes éblouis, Seigneur, par ta gloire et nous voulons nous approcher de toi encore ce matin. Alléluia.
Tu es, tu es.
Tu es ma lumière, tu es, tu seras toujours là. Un des noms de Jésus, c'est Emmanuel, Dieu avec nous. Et c'est ce que nous vous souhaitons, que Dieu soit présent. Et je crois qu'il l'est. On est peut-être distancé, mais Dieu n'est pas distancé. Il est proche de chacun d'entre nous. Il est Emmanuel, Dieu avec nous. Merci au groupe de louanges. Merci aussi à toute l'équipe technique qui se coupe en quatre pour vraiment vous proposer ce temps de culte. Et je les remercie chaleureusement pour leur investissement à chacun et chacune. Si vous souhaitez entrer en contact avec nous, n'hésitez pas. Vous pouvez le faire par le mail contact@epi-strasbourg.eu. Un petit mot, ça nous fera vraiment plaisir. Ou bien le téléphone, vous le connaissez maintenant, je le répète, 06 28 13 58 51. N'hésitez pas, vous souhaitez un contact, vous souhaitez un entretien, n'hésitez pas, prenez le temps. Et si vous souhaitez aussi réécouter les messages, vous souhaitez avoir des informations, vous pouvez aller aussi sur le site de l'EPI, epi-strasbourg.eu, vous pourrez trouver les informations. Et vous, si vous souhaitez aussi continuer à nous soutenir financièrement, pas de souci, vous pouvez nous rejoindre sur le site, vous cliquez sur le lien correspondant et vous trouverez toutes les informations nécessaires. Cette semaine, nous avons eu un temps de jeûne et prière, les soirs du 1er au 4 décembre, et plusieurs dizaines étaient connectées pour prier, pour partager, échanger. Et nous avons vécu vraiment un grand moment. C'est beau de voir les visages des uns et des autres, mais c'était aussi bon d'être connectés les uns aux autres et de prendre du temps pour la prière et de faire monter vers le Seigneur ce qu'il y avait sur nos cœurs, et puis surtout de prier les uns pour les autres et les uns avec les autres. Ça, c'est tellement bienfaisant. Quelques informations sur la reprise. Nous essayons d'être au plus près des informations qui nous parviennent via le site, la préfecture, le gouvernement. Et donc, bonne nouvelle, à partir de dimanche prochain, on pourra à nouveau se retrouver, comme on dit maintenant, en présentiel, c'est-à-dire sur place. Donc, nous avons prévu à cet effet un dispositif qui peut accueillir jusqu'à 140 personnes. Alors, comme d'habitude, quand on est en présentiel, ça veut dire qu'il faut que vous alliez sur le site, que vous vous inscriviez avec le lien qui figurera sur le site. Ou alors, si vous ne pouvez pas aller sur le site, vous nous téléphonez au numéro que je viens d'indiquer pour que nous puissions vous inscrire. Donc on peut recevoir actuellement, avec le dispositif du gouvernement, jusqu'à 140 personnes. Donc bienvenue pour dimanche prochain, le 13 décembre, pour ce culte en présentiel. Et puis le 20 décembre, ça sera juste le dimanche avant Noël, nous prévoyons aussi un culte particulier pour les grands et pour les petits. Si vous désirez venir en famille, on vous réservera des espaces dédiés en famille pour cela. Évidemment, avec des gestes barrières, le gel, masque, etc. Tout cela sera bien mis en place avec les équipes sanitaires, les équipes d'accueil. Donc, si vous souhaitez venir en famille, n'hésitez pas là aussi. Vous vous inscrivez également sur le site où vous nous appelez. On vous inscrira. Et donc, on aura la joie vraiment de vous accueillir dimanche le 20 décembre avec un culte un peu particulier où on aura des animations pour les enfants, du visuel, etc., des choses qui seront préparées à leur intention. À présent, nous voulons écouter le message de Dieu. Nous sommes dans cette nouvelle série, je l'ai dit tout à l'heure, Un autre regard sur Noël. Ce matin, on va parler de Marie. Et quoi de plus naturel que de demander à une fille de nous parler de Marie? C'est Anne Burle, notre assistante pastorale, qui va nous parler ce matin et porter avec nous un autre regard sur Noël en voyant le regard de Marie, comment elle a vécu Noël, ce premier Noël, cette annonce qui lui a été faite de la part de l'ange. Et puis donc, je laisse la place à Anne. Que Dieu vous bénisse.
Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous êtes bien installés, bien au chaud. Alors, comme Michel l'a annoncé, nous commençons une nouvelle série, Un autre regard sur Noël. Et oui, on va parler de Marie, du regard de Marie. Et je ne sais pas pour vous, mais alors je ne l'ai pas encore vécu pour le moment, mais pour moi, la naissance d'un enfant, c'est juste, juste, ça tient du miracle. Un être vivant se développe dans notre ventre, dans le ventre d'une femme, grâce, j'ai envie de dire, à la rencontre de l'ovule et du spermatozoïde, c'est juste incroyable. Mais ce qui est le plus incroyable et le plus grand des miracles, justement, c'est qu'un enfant est né dans le ventre d'une jeune vierge, Marie, grâce à l'action du Saint-Esprit. Et j'ai envie de dire, vous savez, ce qui est plus étonnant, c'est que Luc raconte avec plus de détails que les autres évangiles la naissance miraculeuse de Jésus. Et là, j'ai encore envie d'insister. Et vous savez, ce qui est encore plus étonnant, c'est que Luc, eh bien, c'est un médecin. Oui, c'est un médecin. Et ce n'est pas, c'est quelque chose justement d'incroyable qu'un médecin raconte et reconnaît la naissance miraculeuse de Jésus. Il est dit que Luc est allé récolter les témoignages des personnes qui ont été témoins oculaires pour écrire son évangile. Et ce qui revient à dire en fait que Luc est allé voir Marie, est allé s'adresser à Marie pour qu'elle lui raconte comment s'est passée cette naissance, cette annonce, pour questionner Marie sur la naissance de Jésus. Et donc il n'est plus question là ce matin de remettre en doute la naissance miraculeuse de Jésus. Mais on va découvrir comment la venue de ce sauveur a été vécue par Marie. Un autre regard sur Noël, donc le regard de Marie. Et nous allons prendre sans plus tarder dans la Bible, Luc chapitre 1. On va lire progressivement du verset 28 au verset 50. Donc le contexte en fait, Luc 1, 26, 27 nous dit « Le sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme de la famille de David, appelé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Cet événement se passe 6 mois après que l'ange Gabriel soit allé voir Zacharie pour lui annoncer que sa femme serait enceinte. Et comme vous le savez très bien, j'aime beaucoup remettre le texte dans son contexte. Et on se trouve là, dans la Galilée, plus exactement dans le village appelé Nazareth. Et certaines fouilles archéologiques ont découvert que Nazareth était un village agricole qui paraissait totalement signifiant aux yeux de certains. Comme nous le dit Jean 1, 46, « Peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth ?» On n'est pas en 2020, ça je pense que vous l'avez compris, et il n'y a pas toutes les technologies que nous avons aujourd'hui, ni tout le confort même. Et il n'y a même pas les mêmes coutumes que nous avons aujourd'hui. À cette époque-là, on se mariait très jeune. L'âge légal, attention, écoutez bien, était de 13 ans pour les hommes, pour les garçons, et de 12 ans pour les filles. Et c'est sans doute pour cette raison que les mariages étaient arrangés par les parents, et qu'ils choisissaient quelqu'un du même clan, de préférence même un cousin germain. Il ne fallait surtout pas épouser un étranger qui servait d'autres dieux. Et le texte nous dit que Marie, là, elle était fiancée à Joseph. Et il faut savoir que le mariage juif se déroulait en 3 étapes. La première, c'était la promesse. Juste, c'était une promesse, c'était un simple engagement entre les deux personnes. C'était le temps où les jeunes apprenaient à se connaître. La deuxième, c'était le fiançailles et enfin le mariage, les noces. Et la partie qui nous intéresse, bien sûr, c'est les fiançailles. Car c'est dans cette étape que Marie se trouve dans le passage qu'on a lu. Les fiançailles étaient un acte de la plus haute importance. Elle devait durer une année entière et avait un caractère aussi définitif que le mariage lui-même. La jeune fille fiancée, qui manquait à sa promesse, était lapidée comme la femme adultère. Lors des fiançailles, un contrat était passé devant 2 témoins. En Israël, les fiancés étaient juridiquement mariés, mais n'avaient pas encore de vie commune. Donc, bien sûr, pas de relation sexuelle avant le mariage, ni entre eux, ni avec d'autres personnes. Et parfois, le couple échangeait une bague ou un bracelet. Et Marie était donc liée par fiançailles, ce qui veut dire qu'elle et Joseph ont publiquement échangé leur consentement. Ils sont donc dans la 2e étape du mariage. Et ces fiançailles n'ont vraiment rien à voir avec nos fiançailles actuelles. Et puis l'engagement même, lui, a perdu de sa valeur. Et là, l'engagement avait de l'importance. Mais je voudrais que vous reteniez quand même quelque chose, c'est ce point où il est dit que si la fiancée manquait à sa promesse, elle était lapidée, elle risquait d'être lapidée. Si elle manquait sa promesse envers son futur époux, elle risquait d'être lapidée comme la femme adultère. Et je me permets de rajouter qu'à cette époque, la femme occupait une position qui n'est pas très élevée dans la famille, mais aussi et surtout dans la société. Maintenant que le cadre est posé, on va s'intéresser à Marie. Marie. Les textes bibliques ne parlent pas explicitement de sa descendance de Marie, mais de nombreux commentaires croient qu'elle était aussi de la descendance de David. Et on sait qu'elle était parente avec Élisabeth, la femme de Zacharie. Luc 1, au verset 5, nous dit « Voici qu'Élisabeth, ta parente, est elle aussi devenue enceinte d'un fils dans sa vieillesse. » Marie, jeune fille inconnue, de tout ce que le monde connaissait, était fiancée à un pauvre charpentier. Il est vrai que si nous, aujourd'hui, on nous dit « Tu connais Marie de Nazareth ?» Bon, c'est vrai, il y avait beaucoup de Marie. Mais on se dit « Oui, je la connais, c'est la mère de Jésus. Elle était mariée, elle était fiancée, puis après mariée à Joseph. » On la connaît. Mais Marie, à cette époque-là, je ne pense pas qu'elle était connue. C'est un peu comme si vous disiez, vous allez dans la rue, vous allez voir les Strasbourgeois, et vous allez vous dire « Bonjour monsieur, bonjour madame, est-ce que vous connaissez Anne de Riens ?» Ouais, je pense qu'il n'y a personne qui va vous dire oui. Et la première chose que Luc dit de Marie, c'est qu'elle était vierge, Luc 1, 27. On sait aussi qu'elle est jeune. Son âge est estimé entre 12 et 15 ans. Donc c'est une adolescente et elle est fiancée. Elle a été choisie pour être la mère de Jésus. Luc 1, 28 nous dit « L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Luc nous montre aussi que Marie est une femme juive et pieuse. Respectueuse de la loi, c'est écrit dans Luc 2, 22, quand la période de leur purification prit fin, conformément à la loi de Moïse, Joseph et Marie amenèrent l'enfant à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Maintenant qu'on a un peu plus de détails sur Marie, nous allons découvrir le regard qu'elle a eu face à cette naissance, cette bonne nouvelle qu'un sauveur va naître, au travers du regard de Marie. Et nous lisons, Luc 1, à partir du verset 28. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie parmi les femmes. » Alors je pense que vous remarquez que dans ce texte, dans ce passage, les anges n'y prennent pas rendez-vous, ils viennent, comme ça. Et le verset 29 nous dit, « Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Marie est troublée. » Je pense que cela, ça peut se comprendre. Quelqu'un vient, entre sans prévenir et lui annonce qu'elle a été choisie, qu'une grâce lui a été faite. Et je ne sais pas comment vous réagirez-vous s'il y a quelqu'un qui arrive par surprise. Déjà, normalement, on hurle, on a peur. Mais là, comment elle a réagi? Peut-être qu'elle s'est dit, j'ai une hallucination, ça ne va pas, qu'est-ce qui se passe? Elle a été, comme il est marqué, elle a été troublée par ses paroles. Et dans le livre de « Un Noël caché » de Timothée Keller, il explique que le terme « se demander » en grec veut dire « faire un examen approfondi ». Il ajoute que Marie, à ce moment-là, elle réfléchit, elle médite sur ce qui se passe. Elle réfléchit et elle médite. Quel est aussi le sens de cette salutation que l'ange adresse à Marie? Dans certaines versions, il est écrit « Réjouis-toi, toi à qui Dieu accorde sa faveur ». L'ange n'a pas dit, et je tiens vraiment à le souligner, « Marie pleine de grâce », mais « Marie bénéficiaire d'une grâce divine ». Si j'étais peut-être à la place de Marie, je me dirais, l'ange vient pour me dire, c'est bon, tu peux te marier avec Joseph. C'est rassurant, c'est très rassurant. Je pense qu'il y en a certains qui seraient contents qu'un ange vienne leur dire, oui, vas-y, c'est bon, c'est bien ça que tu dois faire. Mais là, je suis sûre, ce n'était pas le cas. Et ce matin, il y a quelque chose qui est important, c'est que l'ange lui dit, tu as été choisi. Ce matin, tu as été choisi toi aussi. Tu as été choisi par Dieu. Étant donné que c'est Dieu qui est maître de tout, il t'a choisi et il t'a accordé encore la vie aujourd'hui. Notons juste qu'il est précisé aussi qu'il est marqué « Le Seigneur est avec toi ». Ces mots peuvent vous paraître anodins. Mais moi, je le vois comme une sécurité, comme quelque chose qui rassure, des paroles qui rassurent. Avant même d'annoncer avant même que l'ange annonce à Marie ce qui va lui arriver, elle lui dit « Le Seigneur est avec toi », comme pour dire « Ne t'inquiète pas, Dieu t'accompagne ». Et c'est important de se sentir accompagné, entouré par Dieu tous les jours, chaque jour de notre vie. Dieu est là, il est marqué dans sa parole qu'il sera là jusqu'à la fin du monde. Luc 1, 30 à 33, là on vient de voir que Marie a été troublée, elle est troublée par cette annonce. Et Luc 1, 30 à 33 nous dit, l'ange lui dit, n'aie pas peur Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu, voici que tu seras enceinte. Tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il règnera sur la famille de Jacob éternellement. Son règne n'aura pas de fin. L'ange, là je trouve qu'il est très gentleman. Là, il la rassure. Il lui annonce la grâce qui lui a été faite. Et quelle grâce ! Marie, tu vas être mère de Jésus. C'est juste incroyable. Le Fils de Dieu, c'est extraordinaire. Et là, la réponse de Marie, dans Luc 1, 34, nous dit, Marie dit à l'ange, mais comment cela se fera-t-il, puisque je n'ai pas de relation avec un homme ? Alors nous, on a du recul. Le texte, on peut le lire facilement, hop, 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 on sait le début, la fin, en 2 minutes, c'est bouclé. Mais là, quand l'ange annonce à Marie, nous, on pourrait lui dire, Marie, quand même, c'est bon, c'est l'ange de Dieu, il est envoyé par Dieu, c'est lui qui te parle. Donc c'est bon, ne t'inquiète pas. Mais là, elle se questionne. Et elle dit, comment cela serait-il possible ? Et j'ai lu quelques commentaires sur ce verset, et tous se rejoignent pour dire que Marie n'a pas douté. Elle n'a pas douté quand l'ange lui a annoncé qu'elle serait enceinte. C'est plus un étonnement. Elle s'est sentie perplexe en connaissant sa situation et de se retrouver enceinte. Humainement, ce n'est pas possible. Et pourtant, de nos jours, on peut dire combien de femmes ont témoigné de la puissance de Dieu et se sont retrouvées enceintes alors que les médecins leur avaient dit stérile. J'en suis la preuve même. Ma maman, les médecins lui avaient dit qu'elle serait stérile, qu'elle n'aurait pas d'enfant. Et Dieu lui a fait grâce. Mais là, Marie, dans cette situation, l'ange lui annonce la bonne nouvelle de l'évangile. Dieu qui se fait homme, et pour elle, c'est juste impossible. Dans le livre encore de Un Noël caché de Timothée Keller, il dit « Si vous n'avez pas trouvé le message chrétien impossible, à un moment ou à un autre, il est à se demander si vous l'avez vraiment saisi. » Marie a quelque part raison de se questionner. Ce qui revient à dire que aux yeux des hommes, c'est impossible, mais pas aux yeux de Dieu. Toi qui es derrière cet écran et qui entends ce matin encore, tu entends le message de l'évangile, le message d'un sauveur qui est né. Et tu doutes, tu penses que ben, c'est de la folie. Mais j'ai envie de te dire, c'est normal Marie aussi. Elle s'est questionnée. Mais ne reste pas sur ce questionnement et ne ferme pas la porte. Marie, elle a eu du mal à croire. Pourtant, elle était croyante. Et elle n'est pas partie, elle n'a pas fermé la porte à cette perplexité, à ce questionnement. Elle ne s'est pas dit « je suis folle ». Bon, en même temps, on ne le sait pas à ce moment-là, mais je ne pense pas qu'elle ait dit « je suis folle » ou « je ne sais pas quoi d'autre ». Mais par ces mots, comment cela se fera-t-il ? Elle veut en savoir plus et elle questionne. Alors, ne reste pas ce matin sur tes incertitudes, sur tes doutes. Interroge Dieu et je t'assure qu'il se révélera. Aujourd'hui, Hébreux 3, 15 nous est dit, aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte. Ou encore dans Jacques 4, 8, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Fais-le maintenant. Marie, on a vu que Marie, elle était perplexe, que Marie, elle a été troublée. On continue la suite de la lecture dans Luc 1, 35 à 37. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Voici qu'Élisabeth, ta parente, est elle aussi devenue enceinte d'un fils dans sa vieillesse. Celle que l'on appelait la stérile est dans son sixième mois. En effet, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Voilà comment se passera la naissance du Sauveur. Et tout au long de ce dialogue entre Marie et l'ange, on voit comme une progression de foi de la part de Marie. Au départ, elle est troublée. Elle n'était pas sûre, puis ensuite, elle est perplexe. Et Marie, à chacune de ces étapes, l'ange l'a accompagnée, l'ange l'a entourée, l'a rassurée. Et j'ai envie de vous dire ce matin, on ne naît pas chrétien, on le devient. Et là, je voudrais vous demander peut-être un petit exercice, c'est de réfléchir votre conversion. Comment vous vous êtes tourné à Dieu? Il n'y a pas si longtemps de ça, je racontais avec des jeunes, j'étais en cœur à cœur à discuter avec eux, et puis elles me demandaient mon témoignage, et au fur et à mesure que je racontais mon témoignage, je leur disais, mais les filles, en fait, si je suis ici, c'est grâce à Dieu. Si j'en suis au point où j'en suis, c'est grâce à Dieu, parce que c'est lui qui est venu me chercher. C'est lui qui a fait naître en moi cette envie de le suivre. C'est lui qui m'a façonné. C'est lui qui m'accompagne jour après jour. Et là, l'ange accompagne Marie dans sa réflexion, dans son interrogation. On ne sait pas les émotions de Marie à ce moment. On ne les connaît pas. Mais Marie a eu du mal à croire. Pourtant, Luc 1, 38, la réponse de Marie, « Je suis la servante du Seigneur, que ta parole s'accomplisse pour moi. » Malgré le fait qu'elle soit troublée, malgré le fait qu'elle soit perplexe, sa réponse est « Je suis la servante du Seigneur, que ta parole s'accomplisse pour moi. » À son époque, je vous rappelle, tout à l'heure je vous ai dit, à son époque, une jeune fille non mariée et enceinte, elle s'exposait à des conséquences vraiment tragiques. Elle pouvait se faire lapider. Si en plus son père l'a rejetée, mais alors c'était fini pour elle. Elle n'avait plus aucun moyen de ressources pour se nourrir et tout ça. Et en plus, Joseph dans tout ça, qu'est-ce qu'il allait dire? Qu'est-ce qu'il allait penser de Marie? Marie fait preuve de confiance en son Dieu. La confiance exige de l'humilité, de l'obéissance. Son acceptation est un puissant témoignage de foi dans la volonté de Dieu, en dépit de son appréhension et de son incertitude. Luc la présente comme la première disciple qui répond avec confiance et obéissance à la parole de Dieu. Le regard de Marie face à l'annonce de la venue du Sauveur et celui de l'acceptation et de la soumission. Elle accepte le risque, elle accepte le mépris, le rejet, l'abandon, pour faire venir en elle le Sauveur du monde. Et ce qui est juste incroyable, c'est qu'elle offre son cœur, mais aussi son corps à Dieu, pour faire naître le Sauveur qui va par la suite la sauver. C'est juste formidable. Et quand les anges, il y a quelque chose qui m'a fait réfléchir dans la réponse de Marie, c'est que quand les anges sont venus annoncer à Abraham que Sarah allait être enceinte dans sa vieillesse, Sarah, elle a ri. Quand les anges sont venus annoncer à Zacharie, lui annoncer que sa femme aussi, dans sa vieillesse, allait avoir un enfant, il a douté. Et quand l'ange est venu vers Marie, je relis la réponse. Quand l'ange est venu, elle a dit, « Je suis la servante du Seigneur, que ta volonté s'accomplisse pour moi. » Elle croit en ce que l'ange a dit et elle accepte de faire la volonté de Dieu. Et vous savez, je me suis posé 2 minutes parce que je me suis dit, « Mais Seigneur, quand les anges ont parlé à Abraham pour Sarah qui était vieille, quand les anges ont parlé à Zacharie pour Élisabeth qui était vieille, il y a eu des réactions, des doutes et des rires. Mais là, quand l'ange vient parler à Marie, elle se soumet. Et je me dis, est-ce que Seigneur, quand on vieillit, alors on a moins confiance? Quand on prend de l'âge, est-ce qu'on est moins confiant? Parfois, Dieu nous demande d'être comme des petits-enfants par rapport à la foi, à cette foi en Dieu, de croire. Marie nous montre Noël, la naissance de Jésus, le Sauveur de l'humanité, comme une soumission, elle est soumise, une obéissance et une confiance totale à Dieu. Quand elle a dit « Je suis la servante du Seigneur, que ta volonté s'accomplisse pour moi », elle ne savait pas ce qui allait se passer dans la suite. Elle ne savait pas si Joseph allait la quitter ou pas. Elle ignorait tout de son avenir avec cet enfant. Comment l'éducation, comment ça allait se passer, toutes ces choses. Mais elle a fait confiance en son Dieu. Elle a fait confiance. Et quand Dieu te parle et te met à cœur quelque chose, comment réagis-tu? Est-ce que tu es du genre à vouloir tout gérer, à savoir tout ce qui va se passer, à connaître d'avance ce qui va se passer si tu t'engages? Parfois, il n'est pas possible de pouvoir connaître les enjeux, tous les enjeux de l'engagement. Marie ne savait pas tout quand elle a dit oui. Mais malgré ses craintes, elle a fait confiance en Dieu, car celui qui se confie en Dieu n'est jamais, jamais déçu. Et ce pas de foi, eh bien, il te permet d'avancer et d'aller plus loin. Et c'est un peu comme si on te tend une feuille. En haut, il est écrit « contrat, engagement avec Dieu ». Ensuite, c'est tout blanc, date, signature. Qu'est-ce que tu fais ? Marie ne s'est pas engagée à l'aveuglette. Son obéissance est appuyée sur ce qu'elle connaissait de Dieu, notre Créateur et notre Protecteur. Et dans la suite du passage, il nous est raconté que Marie est allée voir sa parente. Je ne sais pas si on sait forcément pourquoi elle est allée la voir. Elle est allée voir Élisabeth. Et quand Marie est arrivée, le bébé qui se trouvait dans le ventre d'Élisabeth a tressailli de joie. Luc 1, 45 nous dit « Heureuse celle qui a cru parce que ce qui lui a été dit de la part du Seigneur s'accomplira. » Et je pense que là, Marie, elle a quand même été soulagée d'avoir quelque part une confirmation, quelque chose qui lui assurait que ce qu'elle a vu, enfin, ce qu'elle a entendu juste avant, c'était vraiment bien réel. Et quand Dieu nous révèle quelque chose, je suis convaincue qu'il nous permet d'avoir toujours des confirmations. À cet annonce, je pense que Marie, là, elle s'est sentie soulagée, mais aussi reconnaissante de ce que Dieu l'a choisie. Reconnaissante de ce que le Sauveur va naître au travers d'elle, mais va la sauver aussi par la suite. Luc 1, 46, 50 nous dit, Marie dit, « Mon âme célèbre la grandeur du Seigneur. » Et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a porté le regard sur son humble servante. En effet, voici, désormais, de toutes les générations me diront heureuse, parce que le Tout-Puissant a fait de grandes choses pour moi. Son nom est saint et sa bonté s'étend de génération en génération sur ceux qui le craignent. Et là, je dois vous avouer sur ce passage, Marie est heureuse, Marie est contente d'avoir accepté, d'avoir dit oui, mais aussi d'avoir cette certitude que ce qu'elle a entendu était vrai. Et mes yeux se sont arrêtés sur le commentaire du verset 46, et je vais vous le lire. Il dit, lorsque Marie déclare, désormais toutes les générations me diront heureuse, fait-elle preuve d'orgueil? Non, elle reconnaît et elle accepte simplement le don que Dieu lui a fait. Nier les faveurs reçues, cela revient à les retourner au donateur divin. L'orgueil consiste justement à refuser les cadeaux de Dieu ou nous les attribuer la gloire de ses interventions. À l'inverse, et humble, celui qui accepte les bienfaits du Seigneur et les utilise pour mieux le louer et mieux le servir. N'abandonnons pas et ne passons pas à côté des dons de Dieu sous silence. Ne les minimisons pas, ne les méprisons pas. Remercions-le de nous les avoir accordés et employons-les pour sa gloire. C'est tellement bon quand Dieu nous fait un cadeau, nous donne. Et encore une fois, il y a une phrase qui est en lien avec ce commentaire encore dans le livre de Un Noël caché de Timothée Keller. Nous n'avons ni la connaissance, ni la puissance, ni le droit de dire à Dieu ce qu'il doit faire. ou comment il doit s'y prendre. Alors oui, Dieu. Oui, Dieu a choisi dans un village agricole Nazareth de Galilée, soi-disant où rien de bon peut en sortir. Il a choisi une adolescente, Marie, qui va épouser un charpentier pour être la mère du sauveur de l'humanité. Il l'a choisi, il l'a fait et il l'a accompagnée. Et je vais demander à l'équipe de louanges de revenir, de remonter. Et on a vu là, au travers du regard de Marie, à l'annonce de l'évangile, à l'annonce de ce sauveur qui nous est né, qu'elle a été troublée, qu'elle a été perplexe et qu'elle s'est questionnée. Mais au final, elle l'a accepté. Au final, elle l'a accepté. Alors oui, ce matin, ce nouveau regard sur Noël, cet autre regard sur Noël, c'est l'exemple que Marie nous laisse. Et ce matin, tu entends, toi qui es derrière ton écran, tu entends parler de l'évangile, de cet enfant qui est né, qui est devenu un homme et le sauveur de l'humanité. Mais tu ne l'as pas accepté. Il est encore temps aujourd'hui de prendre le même chemin de foi que Marie. Être perplexe, se questionner, mais au final accepter. Et à toi qui as accepté ce chemin de foi et qui continue sur ce chemin de foi, fais comme Marie qui a accepté, s'est soumise à Dieu, à son plan, a accepté son cadeau de Dieu, de se soumettre, obéir au plan de Dieu et ne pas refuser le cadeau que Dieu nous fait, que Dieu a mis en toi. Ne pas le nier ou le mettre sous silence. Que ce soit un don, un talent particulier, utilise-le pour sa gloire. Quand Dieu nous appelle, je ne pense pas qu'il nous dit tout ce qui va se passer. Et sincèrement, je crois que heureusement, il ne le dit pas. Parce que je pense qu'on refuserait de suite. Alors qu'en signant ce contrat avec Dieu, ce que Dieu nous propose, nous faisons grandir notre foi. Et nous avançons pas à pas, étape par étape. La question n'est pas qui Dieu va choisir et comment. Mais vas-tu faire comme Marie ce matin et dire « Je suis la servante, le serviteur du Seigneur, que ta parole s'accomplisse en moi. Amen. »
Parce que devant ce papier blanc, on veut dire « Seigneur, tel que je suis, je m'abandonne et je te fais confiance. »
Tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, Agneau de Dieu, je viens, je je viens, oh, je m'aime.
Merci beaucoup, Anne, pour ce message. C'est un message qui n'est pas seulement de la théorie, mais Anne vit ce qu'elle prêche. Et elle prêche ce qu'elle vit. Lorsqu'on lui a demandé de venir sur Strasbourg, elle nous a dit oui. Elle ne savait pas ce qui l'attendait. Et heureusement, elle a raison de dire qu'on ne sait pas toujours ce qui nous attend, parce que la foi comporte un certain risque. S'il n'y a pas de risque, ce n'est pas vraiment de la foi. La foi comporte un certain risque. Mais le jeu en vaut la chandelle. Elle a accepté de quitter son soleil du midi pour venir dans le froid. Et puis nous, on hérite de son accent du midi et un peu de soleil. Mais on est tellement heureux de travailler en équipe, ensemble. Et nous vous invitons à faire comme Marie, à dire oui, Seigneur, oui. Je suis ton serviteur, je suis ta servante. J'accepte le chemin que tu me proposes. Vous ne le regretterez pas. Merci Anne pour ce message. On salue toute la francophonie. On vous salue au Québec. On vous salue aux Antilles. On vous salue en Afrique et aussi à Madagascar. On sait qu'on nous regarde d'un petit peu partout. Nous ne sommes pas tout seuls sur notre planète, mais nous rayonnons et nous voulons vraiment vous bénir. Et vous bénir aussi au travers de ce dernier chant, un chant de Noël que nous voulons vous laisser. Que Dieu vous bénisse.
Le premier Noël chanté par les anges du ciel fut pour quelques bergers endormis dans les champs. Ils gardaient leurs moutons blancs auprès d'eux rassemblés par une
chacun et que le Seigneur vous bénisse.